Binti Minoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Winschiger.
Bonjour Binti Minoudi, avec aujourd'hui comme invité Maître Jean-François Casalt, avocat donc, membre du groupe PNC à l'Assemblée de Corse et candidat au municipal ajaxienne de mars 2020 à la tête d'une liste PNC Corsica Libera, PAIH, où c'est son nom. Jean-François Casalt, bonjour.
Patrick Winschiger, bonjour et bonjour à tutti quelli qui ci stanno a sentire.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Les municipales, évidemment, occuperont la majeure partie de cette émission. Votre bilan, que j'imagine très critique de la majorité sortante, votre projet pour Ajaccio, mais aussi votre position, puisque vous êtes conseiller territorial, je l'ai dit, sur votre position sur des dossiers régionaux comme la gestion des déchets. Mais avant, Jean-François Casalt, un retour sur la genèse de votre candidature. À Ajaccio, comme à Bastia ou Porto Vecchio, l'union des trois forces nationalistes de la majorité territoriale n'a pas été possible. PNC et Corsica Libera partent ensemble, sans FEM, mais avec le logo PA Corsica des territoriales de 2017. Écoutez ce qu'en pense Jean-Félix Acquaviva, secrétaire national de FEM. C'était chez nos amis de France 3 Corse via Stille il y a quelques jours.
Je crois que c'est un moment d'égarement. PA Corsica n'appartient ni au PNC, ni au Corsica Libera, ni à FEM ou à Corsica. C'est un contrat qui continue à l'échelle de la collectivité. Évidemment, ce qui nous concerne, nous l'avons respecté. Nous en sommes une composante essentielle. Et évidemment, je pense qu'il y a eu une petite faute politique en la matière et je crois que ça sera remis, j'espère, sur le droit chemin d'ici peu.
Binti Minoudi, Patrick Winschiger.
Avec donc Jean-François Casalt, candidat municipal d'Ajaccio en mars prochain. Moment d'égarement, faute politique. Que répondez-vous, Jean-François Casalt, à Jean-Félix Acquaviva?
Eh bien, rien. Parce que nous n'entendons pas commenter toutes les petites phrases. Nous avons horreur, Patrick Michiwer, de la polémique, surtout entre partenaires. Nous sommes inscrits dans une démarche PA Corsica. Qui disait quoi? Qui disait, bien, des trois parties de la majorité territoriale devaient être unies pour 10 ans. Nous avons patiemment appelé nos partenaires à l'union. Ils n'ont pas souhaité faire cette union. C'est un choix que nous respectons. Nous, ce qui nous intéresse, par-dessus tout, c'est de rassembler, c'est de fédérer, surtout pas de diviser. Donc nous sommes pleinement engagés dans cette démarche PA Corsica et le reste, c'est dommage. Vous voyez,
cette union qui n'a pas été possible, ces tractations qui ont échoué, pourraient laisser des traces au sein de la majorité territoriale où l'on sait que des tensions existent déjà?
Je ne l'espère pas. Mais des tensions existent, comme dans toutes les majorités. On ne peut pas être d'accord sur tout. Et j'ai pris le parti d'ailleurs quand des tensions se faisait jour d'en parler clairement, y compris au sein de l'hémicycle. En général, nous ne sommes pas d'accord sur des questions de stratégie, mais il peut arriver aussi que sur des questions de fond, nous n'ayons pas exactement la même vision. Il ne faut tromper personne et le dire tout à fait clairement. Encore une fois, on ne peut pas être d'accord sur tout.
Jean-André Minigoni, qui est lui aussi candidat, bénéficiera vraisemblablement du soutien de FEM ou à Corsica. C'est selon vous une liste nationaliste concurrente au même titre que Corinne Front, une liste vraiment 100% nationaliste, Jean-André Minigoni?
J'attends quand même que les positions soient clairement fixées, parce qu'on parle de vraisemblablement depuis plusieurs mois, et finalement les choses tardent à venir. Donc quand nous aurons une vision claire des forces et des oppositions, nous pourrons en parler.
Vous jugerez. Les morceaux pourront-ils être recollés entre les deux tours?
Je l'espère bien.
Avant de passer à l'essentiel, à savoir vos propositions pour Ajaccio, Jean-François Casalt, une dernière question sur votre candidature. Vous avez été mis en examen, vous êtes soupçonné d'avoir, lors de la tentative d'assassinat contre Guiorson il y a un an, d'avoir dissimulé une arme avant l'arrivée de la police. Vous contestez les faits, vous vous êtes maintes fois expliqué, on n'y revient pas, mais simplement, est-ce que cette affaire vous a fait hésiter à conduire la liste?
Vous l'avez dit, Patrick Michiwer, je me suis maintes fois exprimé, je n'entends pas revenir là-dessus, d'autant que, vous le savez, il y a une information judiciaire en cours qui m'interdit toute divulgation sur le fond.
Et on respecte la présomption d'innocence, mais au moment de vous lancer, dans la bataille, est-ce que vous y avez réfléchi aux conséquences, notamment médiatiques, que cela pourrait avoir?
Quand on se lance dans ce genre de bataille, il vaut mieux réfléchir à tout.
RCFM, Binti Minoudi, l'émission politique.
Allez, on continue. Jean-François Casalte, on en vient à votre projet pour Ajaccio. Votre ambition, celle de votre liste, dites-vous, est de sortir la cité impériale de l'impasse. Ajaccio a pourtant gagné plus de 3000 habitants ces dernières années. Sa population avoisine les 71 000 habitants et progresse de 0,9% par an. Des entreprises s'y installent, en tout cas en périphérie. Le chômage est en baisse depuis 2015. En 2019, le taux est de 7,2% de la population active contre, à titre d'exemple, 8,8% à Bastia. Peut-on, dans ces conditions, parler d'impasse ?
Oui, parce que notre vision n'est pas essentiellement démographique, Patrick Bichiguer. On n'entend pas que Ajaccio devienne la banlieue de Baleone et une cité dortoir. Vous avez dit que le chômage baissait, certes, mais c'est quelque chose qui s'observe sur toute la Corse et même au plan national, même si les chiffres ne sont pas formidables pour aujourd'hui, et que des entreprises s'installent en périphérie de la ville d'Ajaccio, c'est pas forcément une bonne chose, étant donné qu'il y a des dizaines de milliers de mètres carrés de surface commerciale qui se sont installés et qui vident le centre-ville et la ville de leur substance. Le véritable problème, ou plutôt l'un des véritables problèmes, se situe ici.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'Ajaccio est aujourd'hui une ville agonisante ?
Eh bien, si vous résidez à Ajaccio, vous le voyez, je pense que ça n'échappe à aucun habitant de cette ville. Vous voyez un moral en berne, une ville complètement désertée, des commerces qui ferment par dizaines, une activité économique qui n'est plus soutenue par rien, excepté des croisiéristes qui débarquent matinalement pour faire un petit tour sur le marché et les rues environnantes. C'est une ville qui se meurt si elle n'est déjà morte.
Ce soir, Jean-François Casalte, le conseil municipal examine le plan local d'urbanisme, le PLU, plan que vous critiquez. Fallait-il renvoyer son examen à après les municipales ?
Ça me semble, enfin après les municipales, je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble une évidence que l'on doit renvoyer l'examen de ce document essentiel pour le développement
pour les 15 prochaines années.
Pour les 15 prochaines années, vous imaginez l'importance de ce document, au moins à une session spéciale et extraordinaire du conseil municipal qui permettrait d'aller au fond des choses et que l'opposition et l'ensemble des habitants d'Ajaccio soient véritablement informés du contenu de ce PLU. Plusieurs milliers de pages.
Il y a une enquête publique, une longue enquête publique d'ailleurs.
Une longue enquête publique avec des réserves et avec des recommandations. Il convient de savoir aujourd'hui, et avons-nous eu le temps de le vérifier dans le détail, je vous le dis me concernant, non, si ces réserves et ces recommandations ont été prises en compte de la manière dont nous l'attendaient tous les Ajacciens et toutes les Ajacciennes.
Alors, l'ambition de ce PLU, selon le maire bien entendu, est de conforter le rôle de capitale régionale d'Ajaccio avec plus de 80 000 habitants dans 15 ans, un centre-ville revitalisé, un développement maîtrisé. Vous mettez en doute cette volonté?
On nous paye de mots.
Ça ne se traduit pas dans le document ?
Ça ne se traduit pas dans le document et ça ne se traduit pas dans les actes qui ont été ceux de la majorité municipale jusqu'à aujourd'hui, puisque dans tous les secteurs importants, la situation s'est considérablement dégradée, que ce soit les mobilités, que ce soit les transports, que ce soit le commerce, ou la circulation, le stationnement. C'est malheureusement aujourd'hui un état qui est proche d'être un état catastrophique de la ville. Alors on va nous dire demain tout va aller très bien, on a quand même quelques doutes à le croire.
Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à ce document ? Quels sont les points que vous contestez ?
C'est un document qui a essentiellement une vision démographique, et d'ailleurs au départ une vision démographique qui excédait les prévisions de l'INSEE. Je crois comprendre que la majorité municipale et M. Laurent Marcangel ont revu leurs prévisions à la baisse. C'est un document qui ne respecte pas les ESA, puisqu'on classe en ESA des parcelles qui ne peuvent pas être classées en ESA, puisqu'elles sont déjà, elles bénéficient déjà d'un autre classement. Je pense à Aspret, je pense à la SNIEF du Paduc, qui fait la part belle, encore une fois, aux promotions, qui a pour ambition de construire dans les dents creuses. Quelle horrible expression d'ailleurs, les dents creuses, comme si on considérait Ajaccio comme une mâchoire carie. Voilà, la philosophie de ce document n'est absolument pas celle que nous envisageons pour cette ville.
Alors cela dit, je lis ce document, enfin la synthèse, 70% de surface constructible en moins par rapport au PLU précédent, 272 hectares de zones naturelles en plus, 111 hectares de surface agricole en plus, ce sont des mensonges.
C'est une question de présentation. Vous savez, je sais que la majorité municipale est habile pour présenter les choses dans un sens qui lui convient. Malheureusement, à l'examen de ce document, la réalité est tout autre.
Donc, examen ce soir en conseil municipal.
Enfin, examen. Il y a quand même 80 autres dossiers. Le PLU doit passer, je crois, en 60e position. Vous imaginez le temps que l'on concède à l'examen de ce document qui est un document essentiel. Je pense que ça dénote quand même un certain mépris. Et pour l'opposition, et pour l'ensemble de la population ajaccienne.
Alors, autre dossier qui a été la cible de vos critiques récemment, la place Camping, inaugurée il y a peu en centre-ville. Vous critiquez l'abandon du parking qui était prévu à cet endroit. Et selon vous, cela a fait perdre, en dehors d'un certain nombre de places de stationnement, beaucoup d'argent aux Ajacciens. Mais pourquoi revenir sur ce dossier qui a été tranché en 2015 ?
Parce qu'il a des conséquences actuelles. Parce que si ce parking avait été réalisé, n'oubliez pas qu'on parle de 678 places, un parking souterrain, hein, c'est-à-dire que la place aurait été de toute façon aménagée. D'ailleurs, c'était une place beaucoup plus grande qui allait jusqu'au quai. Et donc, on n'a pas permis à la ville de se développer, de retrouver un peu d'oxygène, permettre aux commerçants de vivre décemment en brisant dans l'œuf par une décision unilatérale la construction de cette parking, alors que on avait déjà versé à la société Q-Park une somme de 12 millions d'euros, à laquelle s'ajoute la clause pénale de 1 300 000 euros.
Vous vous rendez compte quand tout ça a coûté 21 millions d'euros.
21 millions d'euros hors aménagement de la place. 21 millions d'euros. Si on fait, on parle beaucoup du plan Action Cœur de Ville.
La place, elle est là maintenant.
La place, elle est là, mais le parking n'est pas là. Les possibilités pour les commerçants ne sont pas là. Et on a jeté à la mer 21 millions d'euros. Je ne sais pas si ça paraît peu à certains, mais 21 millions d'euros, si on fait un calcul rapide avec le plan Action Cœur de Ville, dont on parle aujourd'hui beaucoup, c'est le plan Action Cœur de Ville, c'est 5 milliards d'euros sur 222 communes. Si on fait une division simple, ça fait 4,5 millions par an pour la commune d'Ayatch. Sur 5 ans, ça fait 22 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on a dilapidé l'argent du plan Cœur de Ville si on veut faire un calcul rapide.
Mais si on avait fait un parking, vous répond la mairie, on aurait donné 36 millions d'euros à la société Q-Park, qui est un fonds de pension hollandais.
C'est soit une ignorance du dossier, soit un mensonge éhonté. Et je ne sais pas ce qui est le plus grave, parce qu'il était prévu une redevance qu'au contraire Q-Park devait verser à la ville, qui devait au contraire se monter à 40 millions d'euros pour les 35 années d'exploitation. Mais la solution... C'est nous qui aurions dû recevoir 40 millions d'euros de Q-Park, hein, et pas nous qui allions payer 36 millions.
Au-delà de cette perte d'argent, la solution dans les centres-villes, est-ce forcément des parkings et encore des parkings qui sont des aspirateurs à voitures? Est-ce qu'il ne faut pas repenser la mobilité?
Vous parlez d'or, Patrick Vichiguer. Évidemment qu'il ne faut plus de voitures en centre-ville, ou en tout cas réduire les voitures à la portion congrue. D'ailleurs, il faut juste s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Vous voyez en Italie, vous voyez dans toutes les villes d'Europe, les centres-villes sont piétonnisés, il y a beaucoup de commerce, il y a une qualité, un confort de vie beaucoup plus agréable pour les habitants. Mais il y a quand même une période de transition à prendre en compte. Et puis aussi, il faut des solutions de stationnement et de circulation pour les résidents ajacciens. Donc je pense que ce parking aurait été une excellente chose pour justement, dans la période de transition, attendre un peu un changement de modèle que nous espérons tous.
Alors, des critiques, on va passer aux propositions. Quelles sont vos propositions fortes pour Ajaccio, pour redresser, je prends un des propos que vous avez tenus dans la presse, pour redresser la ville ?
L'heure, vous le savez, n'est pas encore au programme. Nous distinguons deux temps dans une campagne électorale. Il y a un temps pour le constat qui est essentiel, hein, qui nous permet de savoir d'où l'on part pour arriver vers quels objectifs. Et nous sommes aujourd'hui dans le temps du constat. Néanmoins, il y a déjà quelques propositions extrêmement importantes que nous avons faites. Et la première, c'est d'avoir une vision globale, non seulement de cette ville, mais de l'intercommunalité. Parce que si aujourd'hui vous pensez à Ajaccio sans penser à l'ACAPA, nous pensons que vous avez tout faux. Il y a des complémentarités à envisager sur un plan économique, parce que je vous rappelle que l'ACAPA a la capacité, ou du moins la compétence en matière de développement économique, sur le monde agricole, enfin tout un tas de réflexions à mener. Mais il y a aussi des projets phares qui doivent sortir enfin de terre, comme le projet du fonds de baie, qui serait apte, s'il était réalisé correctement, à faire enfin basculer Ajaccio dans le 21e siècle. Il y a des projets au plan culturel, cette citadelle qui est un élément fondamental pour Ajaccio. Il faut en faire un lieu essentiellement culturel. Nous avons cette formule.
C'est l'ambition de la mairie, me semble-t-il.
Ah non, non,
aussi,
non. Le C'était pas l'ambition de la mairie. Vous avez vu le document qui a fuité il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. C'était pas du tout l'ambition de la mairie.
Le projet d'hôtel a été abandonné.
C'est à partir d'une concertation réalisée très tardivement, après que nous l'ayons demandé sur un plan public et de manière réitérée, qu'on s'est décidé à concerter les Ajacciens et que finalement la position des Ajacciens rejoint la nôtre, savoir un lieu essentiellement culturel. On veut en faire un théâtre à ciel ouvert. C'est notre formule et nous pensons que c'est une belle formule.
Vous avez dit dans un entretien accordé à Cor ce matin, parlant de votre démarche, qu'il s'agit, je cite, d'une démarche nationaliste impulsée et conduite par des nationalistes et qui représente les éléments fondamentaux du mouvement national et de conclure tout l'intérêt de pouvoir les décliner au niveau municipal. L'idéologie, selon vous, Jean-François Casalt, a sa place dans une gestion municipale ?
Ça n'a rien d'une idéologie, c'est un développement selon nos fondamentaux. Vous savez...
Mais comment ça pourrait se traduire, par exemple, les éléments fondamentaux du mouvement national dans la gestion d'une commune ?
Je vous explique, mais vous le savez déjà. Nous sommes contre l'importation de modèles qui, déjà, ont fait la preuve de leur échec partout ailleurs en Europe depuis des dizaines d'années. On parle notamment de ces surfaces commerciales à l'extérieur de la ville. On pense que nous avons en nous les ressources pour nous développer et on se viloupe, comme on dit, à mode ou nostre. C'est-à-dire que nous avons un environnement qui est un environnement exceptionnel. Nous avons des richesses dans cette ville, des richesses patrimoniales, des richesses historiques qu'il suffit de mettre en valeur par des moyens qui sont relativement simples pour pouvoir justement en bénéficier et en faire un levier de développement économique. Faut pas copier ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait souvent mal. Il faut se servir de nos propres forces pour en faire des richesses et, je le disais à l'instant, un vecteur de développement économique.
Allez, on poursuit.
Binti Minoudi, l'émission politique.
Dernière partie de ce Binti Minoudi, l'actualité étant souvent en Corse, Jean-François Casalt, un éternel recommencement. On va parler des déchets, mais sans quitter la région ajaccienne. L'ACAPA a annoncé qu'elle sera solidaire la semaine dernière, qu'elle sera solidaire avec les territoires voisins, disposant du matériel et des moyens humains. Elle propose de s'occuper de la mise en balle des déchets. On écoute Étienne Ferrand, des maires d'Alate, vice-présidente de l'ACAPA, et puis vous réagissez.
C'est un pis-aller, nous en avons conscience. Nous allons garder notre site pour les 10 communes de l'ACAPA. C'est la seule solution que nous avons de truc. On n'est pas vraiment fiers de cette solution, mais au moins nous avons une solution à proposer. Ensuite, il faut que ceux qui ont la responsabilité du plan des déchets de son exécution, à savoir la collectivité de Corse et Civadec, nous proposent des solutions définitives, parce qu'on ne peut pas se payer des crises à répétition qui sont extrêmement coûteuses pour les collectivités et donc pour les contribuables.
RCFM, Binti Minoudi, l'émission politique.
Tout d'abord, une réaction à cette initiative de venir en aide aux régions. Vous validez ?
Ah ben oui,
aux régions voisines.
C'est très bien, la CAPA est solidaire et la solidarité, ça nous résume. Donc nous sommes parfaitement en accord. J'en profite pour souligner quand même que ce n'est pas une initiative originale, que la mise en balle et le stockage à Saint-Antoine, ça s'était déjà fait lors de crises précédentes de déchets. Mais oui, effectivement, devant une situation de crise, il est difficile de réagir d'une autre manière.
Autre point le plus important, Étienne Ferrand y met en cause la responsabilité de la collectivité de Corse et du Civadec dans cette crise. Il a tort, finalement.
C'est difficile de dire il a tort ou il a raison. En tout cas, vous savez que la collectivité de Corse n'a pas de compétences propres en matière de déchets.
C'est elle qui détermine le plan de traitement des déchets.
J'allais y venir.
Le Civadec n'étant que l'exécutant.
L'exécutant, mais j'allais y venir. Mais néanmoins, ce plan a été mis en place. C'est un plan qui est très intéressant, qui aujourd'hui souffre de retard du fait de la difficulté de trouver des centres de stockage en Corse, parce que les territoires s'y opposent.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'anticipation des autres avant vous, mais de vous aussi depuis 2015, quand on fait fermer Bigot par exemple ? Il fallait prévoir, il fallait s'attendre à une situation de crise.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce problème d'anticipation que vous pointez du doigt, vous avez parlé des autres avant nous aussi. Il faut savoir qu'on est sur une incurie qui a duré plus d'une dizaine d'années. Comment s'en sortir quand vous avez une situation qui vous tombe sur les bras et qu'il faut aménager et penser à la période transitoire quand la situation est déjà bloquée? Je pense que la collectivité de Corse fait tous les efforts nécessaires pour essayer de sortir de cette situation très difficile, mais... chacun a conscience de l'âpreté de la tâche.
Ça vaut pour les déchets, mais ça vaut aussi pour d'autres dossiers. Après 4 années de gestion, peut-on toujours se réfugier derrière ? Oui, mais ce n'est pas notre faute, c'est la faute à l'État ou c'est la connaissance, c'est la conséquence de 40 ans d'inertie de la Chagor.
On ne se réfugie derrière rien, mais il faut bien pointer à un moment ou à un autre les responsabilités qui paraissent évidentes. Ou alors ce serait mentir. Je pense qu'au contraire, nous avons à cœur...
Vous partagez sans réserve ce bilan de la majorité territoriale ?
Je partage sans réserve le bilan de la majorité territoriale. Et même s'il y a eu des erreurs, même s'il y a eu des faux pas, même s'il y a eu des choses qui m'apparaissent pouvoir avoir été réalisées différemment, je fais partie de cette collectivité territoriale et j'en suis solidaire.
Eh bien, ce sera là votre conclusion, Jean-François Casalte. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, Patrick Michiouir.
Binti Minoud avec Jean-François Casalte, c'est terminé. Une émission à écouter ou réécouter sur France Bleu RCFM. La semaine prochaine, même heure, autre invité, Pierre Savelli, le maire de Bastia, candidat à sa succession. Il devrait l'annoncer samedi prochain.